Prenez soin des vôtres. Ensemble, prenons soin des autres. On se dit à demain, 7h55 dans le Pit Stop et 14h avec qui a le goût de faire de la radio.
Là, bye.
Salut, là.
Boulevard. Québec. 102.1. Ville de radio. À l'écoute des citoyens. Notre programmation 100% parlée en semaine est là pour vous. 6h, Marceau le matin, avec Yann Marceau, Max Larouche et Jeff Fortin. 7h55, le Pit Stop avec Denis Gravel. 10h, le Point de Max, maintenant en duo avec Catherine Bachand. Le midi, on jase avec Jeff Fortin, Pascal CV et le caucus avec Antonin Niacarini. 14h, Gravel dans le retour avec Denis Gravel, Véronique Bergeron et Audrey Pinchot. 18h, Marceau le soir, Boulevard 102.1. Maintenant, 100% parlée en semaine. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables est avec nous ce soir. Salut Nicolas.
Ça va bien?
Oui, ça va bien. Pour les gens qui ne connaissent pas la Fédération canadienne des contribuables où tu es directeur, c'est quoi exactement?
C'est un organisme à but non lucratif qui est installé à travers tout le Canada depuis 1990. On se bat pour moins d'impôts, moins de gaspillage, un gouvernement plus transparent, plus responsable, plus imputable. Bref, trouvez le synonyme qui vous plaît. Mais bref, on se bat pour ça. On est présent sur toutes les tribunes, dans les médias traditionnels comme alternatifs, sur des comités parlementaires. Ouais. On publie des textes, on publie des mémoires prébudgétaires. Puis notre but, c'est d'être la voix des contribuables là où est-ce qu'elle n'est pas suffisamment entendue et de faire pression sur des politiques publiques pour que ça change et que ça améliore la qualité de vie des contribuables à travers tout le pays.
Nicolas, je suis tanné d'être contribuable, moi. Tu moyen de signer quelque part pour me désaffilier d'être contribuable?
Je sais pas. Il y a possibilité de déménager dans un autre pays, mais ouais. D'être contribuable d'un autre pays par la suite. Fait que c'est changer le mal de place. Sinon, il existe aussi le fait de ne pas payer pour vos impôts, mais après ça, c'est la prison. Donc, bon, c'est pas mal les alternatives qui s'offrent à vous. Par contre, on peut se battre pour payer moins d'impôts, pour payer moins de taxes à tous les niveaux parce qu'on en paye au provincial, fédéral, municipal. C'est ça. C'est le combat qu'on mène, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'on en ait au moins pour notre argent, parce que c'est le sentiment, je pense, qui est assez généralisé au Québec. On paie beaucoup d'impôts, puis on n'a pas l'impression d'en avoir pour notre argent quand c'est temps de parler de qualité ou d'accessibilité de services ou de la portée de nos infrastructures. Fait que, non, je te comprends, Yann, il n'y a pas de problème là-dessus.
Au Canada, mais principalement au Québec, on paye énormément pour le retour qu'on a, du moins pour la génération, ma génération à moi, ta génération à toi. Il y a un gros panier de services qu'on bénéficie pas, mais qu'on paye pareil. Mais bref, on n'a pas le choix, il faut être contribuable, puis salutations à la Fédération canadienne des contribuables de continuer à militer justement pour que les contribuables aient un peu plus, un meilleur retour d'investissement, mais des baisses d'impôts une fois de temps en temps, on va se le souhaiter. Mais t'as-tu senti un vent nouveau? Parce que on avait parlé de la fameuse fenêtre d'Overton, toi et moi, là, il y a de ça quelques mois. Si je ne me trompe pas, c'était quand on a su que Bernard Drinville s'en allait à la chefferie de la coalition en venir Québec. Là, tout d'un coup, il s'était découvert un vent de droite économique. Et là, on avait dit, ben là, c'est plus rendu une plaie, là, dire qu'on est de droite économique. C'est plus rendu une plaie de dire qu'on veut un plus petit gouvernement, qu'on veut payer moins d'impôts, qu'on veut un meilleur retour sur investissement. Tu sens-tu que le vent commence à tourner chez nos politiciens, tant au fédéral qu'au provincial, concernant le fait qu'à un moment donné, on est écœuré de payer, puis ça nous prend un retour sur investissement?
Ben oui, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il arrive trop peu, trop tard pour certains. Tu sais, qu'Éric Duhaime soit de droite, ça surprend personne. Ça fait des années, voire des décennies qu'il est positionné à droite. Que la CAQ revienne à droite, on dirait qu'ils reviennent au bercail. Tu sais, c'est un retour aux sources qui arrive vraiment en fin de mandat. On en avait déjà parlé à plusieurs reprises d'ailleurs, parce qu'on avait parlé notamment des fameuses coupures dans la fonction publique, où est-ce qu'il veut couper jusqu'à 5000 postes en 2 ans. Ils ont décidé de tout ça l'année dernière, là, je pense en 2025. Après le réveil brutal là, de la décote et tout ça, ils ont fini par comprendre que ouais, faut faire le ménage. Mais c'est un ménage qui arrive trop tard. Par contre, c'est une approche qui était sensiblement la même que celle présentée par la CAQ quand elle voulait se faire élire en 2018. Fait que là, c'est comme on revenait au bercail tranquillement. Oui, il y a des idées de Bernard Drinville qui ont clairement amené le parti de la CAQ à se positionner à droite. Maintenant, comme je dis, c'est dans un contexte électoral. On est à 6 mois des élections. Il y a comme une. Je ne sais pas c'est quoi la stratégie, les stratèges de la CAQ, pour être honnête, mais je crois qu'ils ont senti que s'ils veulent, par exemple, préserver un certain nombre de comtés dans la région de Québec, par exemple, un endroit qui est généralement plus conservateur quand c'est temps de voter au fédéral que même peut-être au provincial, bien, ils ont compris qu'il fallait parler à cet électorat-là. Mais je vois aussi que Mme Fréchette a fait à peu près pareil sur certains enjeux. La question du troisième lien. OK, là, il va aller à l'Est, puis on va être plus proactif sur ce dossier-là. La question de rembourser la taxe de bienvenue. Bon, c'est un pas dans la bonne direction. Je trouve qu'elle aurait pu simplement abolir ou sinon ajuster les taux, faire en sorte qu'on paye beaucoup moins de taxes de bienvenue plutôt que juste pour les premiers acheteurs. Bref, il y aurait pu avoir des mesures comme ça. Sinon, la question du gaz de schiste. C'est quand même un retour assez intéressant. Là, on parle du développement des ressources naturelles. C'était quasiment rendu tabou, il n'y a pas si longtemps. On parle quand même du même gouvernement qui a fait un projet de loi pour interdire l'exploration du gaz et du pétrole au Québec. Puis finalement, rembourser la taxe carbone aux agriculteurs. C'est quand même assez particulier parce que c'est le même gouvernement que pendant des années, ils ont joué avec les mots en disant qu'on ne payait pas de taxe carbone au Québec. Puis là, soudainement, quand le fédéral se débarrasse de sa taxe carbone, là, ah, OK, il faut qu'on fasse de quoi? On réalise qu'on est rendu les seuls avec une taxe carbone, mais on ne veut surtout pas la faire. Ils ont même fait une motion à l'Assemblée nationale, on se rappelle l'année dernière, pour protéger la taxe carbone. Là, ils sont rendus à la rembourser aux agriculteurs. Puis à partir du moment qu'il y a une brèche dans ce genre de mécanisme-là, attendez-vous à ce que d'autres personnes demandent un remboursement? Qu'on soit de plus en plus nombreux à demander notre dû par rapport à la taxe carbone. Donc, c'est des brèches volontaires, peut-être de la CAQ, qui ont été faites, qui amènent le parti à se positionner à droite. Maintenant, est-ce que le PQ va dans cette direction-là? Oui et non. Est-ce que le PLQ va aller dans cette direction-là? On ne le sait pas encore. Mais on a l'impression qu'effectivement, la CAQ se met à jouer un peu dans les plates-bandes des conservateurs. Mais est-ce que ça va leur emmener des bénéfices réels? Est-ce que l'électorat va soudainement leur faire confiance après les 7 dernières années et demie qu'on a vues de leur part? Poser la question, c'est un peu y répondre, mais il est quand même très tôt, là. Il reste quoi, 5 mois et quelques jours avant qu'on aille aux urnes pour voter, là. Donc le vote, c'est quand même le 5 octobre, puis il y a bien des choses qui peuvent se passer de ce temps-là.
Il y a Mark Carney aussi qui était qui a été pressenti pour être le chef du Parti libéral du Québec. Il y avait un vilain qui était de l'autre côté, qui était Donald Trump. On avait besoin de quelqu'un qui était capable de négocier avec Donald Trump. On a dit, tiens, Mark Carney a un profil économique. On regardait Pierre Poilievre. Il y a des gens qui l'adoraient, Pierre Poilievre, qui l'aiment peut-être un peu moins aujourd'hui. Ils ont leurs propres raisons, puis j'embarquerai pas là-dedans. Mais il n'en demeure pas moins qu'on a mis Mark Carney en place et lui a commencé à piger des trucs dans le cahier de jeu de Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, qui est quand même du côté de la droite économique là, avec les conservateurs. Donc, tranquillement mais sûrement, il y a un petit virement là, vers la droite économique que je déteste pas. Pour ce qui est de la taxe, de la bourse du carbone au Québec, tu sais que c'est les libéraux à l'époque, c'est les libéraux à l'époque qui avaient eu cette idée-là, puis finalement, ben, quand le Parti québécois avait pris le pouvoir, c'est eux qui l'avaient mis en place, la bourse du carbone. Puis en parlant avec Bernard Drainville m'a appris que ce serait impossible aujourd'hui d'enlever cette bourse du carbone-là parce que ça coûterait des milliards et des milliards de dollars en remboursement. C'est ce qu'il m'avait dit à l'époque. Puis toi, tu m'avais dit, Yann, c'est pas tout à fait vrai. On ne serait pas obligé de rembourser ces entreprises-là.
Non, exact. Non, il n'y a rien qui nous oblige à le faire. Puis,
on va se faire poursuivre si on ne les rembourse pas parce que ces gens-là ont payé.
Ben oui, puis non. Il y a comme plein d'arguments qui peuvent être mis de l'avant, mais allons vers l'essentiel. Les entreprises québécoises qui ont été soumises au système de plafonnement et échange de droits des émissions, là, la bourse du carbone du Québec, ou taxe carbone, tout simplement, depuis 2019, du moins surtout depuis l'arrivée des libéraux en 2015, puis avec le déploiement de la taxe carbone fédérale, il faut dire que nous, la taxe carbone du Québec est moins coûteuse déjà que la taxe carbone fédérale. Fait que sur toute la période où est-ce qu'on avait notre propre taxe carbone au Québec, on ne payait pas la taxe carbone fédérale. C'est comme la condition. Pour ne pas avoir la taxe carbone fédérale, il fallait avoir une taxe carbone locale. Et cette taxe-là était beaucoup moins coûteuse. Ce qui a fait en sorte qu'essentiellement, les entreprises québécoises ont économisé, ils ont eu comme un gros rabais pendant plusieurs années. Tout comme les automobilistes, par rapport à si on avait été sous la taxe carbone fédérale. Ça, c'est la première chose à mentionner. Donc, tu sais, essentiellement, je pense que à la limite, si on n'est pas parlé d'un dédommagement, puis je compte ça pareil, ça serait par rapport au 1er avril 2025. Ben, c'est seulement depuis le 1er avril 2025 qu'on est les seuls à refiler ce coût-là aux contribuables et aux entreprises québécoises. Maintenant, deuxième argument, la question des poursuites. Ben, c'est pas arrivé avec l'Ontario, ça n'arrivera pas avec le Québec. C'est aussi simple que ça. Il y a des, je pense que c'est le journaliste Paul Journet de La Presse qui a souligné ça dans un article il n'y a pas longtemps. Puis c'est justement par rapport à une entrevue avec Éric Duhaime qui est possiblement le seul politicien au Québec sur ce dossier-là, la taxe carbone, à vouloir l'abolir. Puis effectivement, l'argument, c'est qu'on non, il y a pas eu, les poursuites seraient très difficiles à mener pour les entreprises, là. Puis on parle de millions de dollars en frais juridiques. Puis pour des gains qui seraient très minimes, voire qui sont vraiment pas certains à obtenir en cours, parce qu'en Ontario, on a vu que ça ne pouvait pas se faire, parce qu'il y a vraiment des clauses dans l'entente entre le Québec et auparavant auquel l'Ontario adhérait, entre le Québec et la Californie. Donc, essentiellement, on n'est pas obligé de dédommager les entreprises à ce niveau-là. Et finalement, le point que Bernard Drinville souligne, c'est les fameuses pertes de milliards. C'est des pertes de milliards en termes de revenus pour le gouvernement, parce que le gouvernement va chercher pas loin de quoi 1,7, 1,8 milliards de dollars, ne serait-ce qu'au courant de la dernière année, c'est le montant qu'il est allé chercher en taxes carbone. Ce montant-là, ça va dans le fonds vert. Mais le fonds vert, ou le fonds à l'électrification et au changement climatique, ça a essentiellement été dilapidé sous forme de subventions aux entreprises à travers un paquet de programmes qui ont été créés, notamment Rouler vert. Fait que c'est sûr et certain que si tu abolis la taxe carbone d'un bord, mais que tu maintiens le fonds vert actif avec tous les programmes de subvention, tu crées un déficit. Mais si tu débarrasses la taxe carbone et tu te débarrasses du fonds vert, ben et voilà, on arrive à comme un coût nul essentiellement pour les finances publiques et les contribuables. Puis en plus, ça permet de donner de l'air à l'ensemble de l'économie québécoise. Dans le dernier budget qui a été présenté en mars dernier, on voyait clairement que le Québec était à la place avec l'inflation la plus élevée au Canada à cause du fait qu'on était les seuls encore à maintenir une tarification sur le carbone. Ça nuit à notre productivité, qui est déjà la moins intéressante là, par rapport à toutes les autres provinces canadiennes. Ça nuit à puis pas juste à la productivité entre entreprises, mais aussi à notre PIB. Mais ça nuit aussi au portefeuille des Québécois. On parle d'un coût qui peut aller jusqu'à 500 $ par famille, selon le nombre de véhicules que vous avez, si vous chauffez au gaz, ce genre de détails-là. Donc, une facture qui est quand même directement ressentie et qui est de plus en plus importante quand vous parlez aux agriculteurs qui l'assument, puis vous parlez aux camionneurs qui l'assument. Donc, essentiellement, se débarrasser de cette taxe-là, ça pourrait permettre d'alléger un fardeau fiscal important pour l'ensemble de l'économie québécoise, puis on tirait des bénéfices de ce côté-là. Donc, pour venir à M. Drainville, la réalité pour laquelle on ne se débarrasse pas de la taxe carbone au Québec, c'est par pur manque de courage politique. C'est pas parce que le calcul comptable n'est pas, y arrive pas à une équation qui est valide.
Dans le show du matin, je parlais avec Alexandre Boulris qui quitte le NPD après 15 ans pour aller chez Québec solidaire. Puis je lui ai demandé, c'est quoi selon vous les priorités des Québécois? Et il m'a sorti l'environnement en premier. Puis là, je disais que les priorités des Québécois, c'est un peu plus de manger présentement puis de se nourrir. Là. On est de manger présentement puis de se loger. Et on est rendu là maintenant parce qu'il y a de moins en moins d'argent de disponible. Puis les gens, ben, ils reviennent un peu à la base. Puis là, il m'est revenu en disant « Oui, mais vous savez, l'environnement, c'est important. » Puis là, je disais « Monsieur Boulris, avec tout l'argent qu'on a mis avec la bourse du carbone, toutes les taxes supplémentaires qu'on paie quand on achète des produits qui, pour récupération, faut mettre des montants supplémentaires, avez-vous une modification du climat mondial en raison de tout l'argent qu'on a envoyé, tu sais? C'est pas une priorité actuellement. Là, on fait toute notre part pour ce qui est de l'environnement, puis je continuer dans cette optique-là de faire ta part pour l'environnement, mais l'argent qu'on envoie constamment au gouvernement pour l'environnement, c'est bien rare que ça va servir concrètement à réduire la température mondiale de l'air ambiant, là, tu sais.
Ben, c'est ça, il faut quand même être réaliste. Moi, je reste quand même quelqu'un qui est très attaché à l'environnement. Je veux dire, j'ai une famille, moi, j'ai des Laurentides. Je veux dire, je suis quand même installé malheureusement à Laval. Là, c'est une autre histoire. Mais je tiens à la protection de la forêt, de
Ben
la
oui.
qualité de l'air, de l'eau, comme n'importe quel être humain qui se respecte. Puis, tu sais, je fais mon compost, je fais mon recyclage, je fais toutes ces affaires-là comme n'importe qui. Tu sais, je pense qu'on peut avoir une conscience environnementale tout en étant réaliste, en se disant, écoute, le
Parfaitement
Québec,
d'accord.
là, on représente à peu près même pas 0,3 % des émissions globales. Il y a deux réalités qui dérangent avec ça. C'est que le Québec, effectivement, pourrait complètement disparaître, là, pour revenir à un fameux texte de Mathieu Bock-Côté là-dessus. Le Québec pourrait complètement disparaître ou revenir à l'âge de pierre, puis ça ne changerait rien au changement climatique global. Même chose pour l'ensemble du Canada, qui est à peu près 1,5 % des émissions globales.
Sauf que l'argent qu'on envoie, je trouve que c'est beaucoup d'argent perdu qui pourrait revenir dans les poches des contribuables. Puis on continue
Oui.
à faire de l'éducation au niveau de l'environnement. On est capable de l'utiliser différemment. Écoute, je lisais un article sur Nouveau Info Ça date de 2-3 jours, cet article-là, mais on parlait des jobs pour les jeunes. Puis les jeunes, on mettait les gens jusqu'à 25 ans. Jusqu'à 25 ans, tu étais jeune sur nouveau. Là, j'ai appris que j'étais rendu vieux parce que j'ai dépassé 25 ans. Je le sais que ça te surprend, mais c'est ma petite crème de jour qui fait la différence. Mais il parlait de beau salaire à 19$ de l'heure. Beau salaire, B-E-A-U-X, beau salaire avec un S, là, à 19$ de l'heure. Des emplois qui sont disponibles. C'est pas un beau salaire, c'est un salaire d'entrée 19$ de l'heure. Le salaire minimum dans quelques jours va augmenter autour de 16,70$, 16,80$, je ne me trompe pas, là, le 1er mai. Puis avec ça, si tu es seul, si tu habites seul dans un logement, tu as de la misère à te loger, tu as de la misère à te nourrir, tu as de la misère à te promener autrement qu'à pied. C'est complexe. Là. Venez pas me dire, faut pas que les journalistes embarquent là-dedans. Là. Beau salaire à 19$ de l'heure. C'est non. Mais en même temps, tu ne peux pas augmenter tout le monde à 30$ de l'heure parce que tu ne seras plus capable d'aller au restaurant, tu ne seras plus capable de faire ton épicerie parce que tout le monde va avoir des salaires extrêmement élevés. C'est assez particulier, les salaires versus ce que ça peut faire dans l'économie. Mais qu'on ne me dise pas que 19$ de l'heure, c'est un beau salaire. Avant, c'était un beau salaire, 19$ de l'heure, parce que le coût de la vie était moins élevé. Aujourd'hui, 19$ de l'heure, tu as de la misère, là.
Oui, ben, tu sais, 19$ de l'heure, si c'est, comment dire, dans tes premières jobs, puis tu vis chez tes parents, parce que tu es à l'école ou tu es au cégep ou à l'université, à temps partiel ou à temps plein.
C'est du luxe.
Oui, non, tu sais, non, mais 19$ de l'heure dans ces conditions-là, je pense que ça a de l'allure. Je pense que c'est un bon salaire d'entrée. Maintenant, si on parle de quelqu'un qui doit payer son logement, qui doit payer sa voiture, mettre l'essence ou les plaques, les assurances, et écoutez, avec l'épicerie en par-dessus le marché, puis le logement, écoute, l'autre fois, je magasinais des logements juste pour le fun dans le coin de Montréal. Je sais pas, je pense qu'un 3,5 là, en bas de 1 200$, c'est quand même dur à trouver.
Oui,
là,
puis tu restes dans un ghetto, là.
Ben, c'est ça. Tu ne vis pas nécessairement dans un logement que comment dire, moi je trouve que ça vaut pas le 1 200$ que tu paierais pour ça. Puis on s'entend que la sécurité, c'est un argument, effectivement. Ou le fait que, tu sais, est-ce que c'est bien isolé? C'est quoi la facture d'électricité? Tous ces détails-là aussi, parce que même pas, c'est des coûts qui vont arriver par la suite.
Ouais.
Mais oui, à 19$, malheureusement, ça démontre un peu la situation, ben, l'état de l'économie. Moi, je me rappelle, écoute, je pense que ta première job. Je pense en 2009 ou en 2010, on me corrigera, mais je pense que mon salaire minimum, c'est genre 8,50$ ou 9$ de l'heure. Ça a doublé. Bon, on s'entend que ça fait quasiment 16 ans de ça, mais il n'en reste que, veux pas, c'est fou de quand même considérer que quand on était à 9$ de l'heure, on avait quasiment un plus gros pouvoir d'achat qu'à 15-16$ de l'heure, comme c'est rendu aujourd'hui. Ça fait que c'est d'augmenter les salaires, c'est... Tu sais, je veux dire, en somme, c'est pas une mauvaise chose. Sauf que le problème, c'est comment c'est fait et où est-ce qu'on est rendu.
Exact.
Puis, veut pas ce que ça représente pour les entreprises en termes de coûts.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là? Mettons qu'on était, toi et moi, on était ministres, là, puis on avait un plan à aider ces gens-là à plus faible salaire. Même j'embarque les familles de la classe moyenne là-dedans, là. Tu sais, c'est plus vraiment rendu rentable de faire du temps supplémentaire parce que tu te fais manger énormément en impôts. C'est comme si le gouvernement te décourageait à travailler plus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si on était toi et moi ministre, là, pour aider les gens à rembourser leurs dettes puis avoir un petit peu plus d'argent dans leur poche une fois qu'ils ont tout payé ce qu'ils avaient à payer pour s'en mettre de côté pour leurs vieux jours s'ils ne travaillent pas pour l'État?
Hey, c'est une bonne question. Ben, on commencerait juste la question de l'impôt sur le temps supplémentaire d'une quelconque manière devrait être supprimée. Là, c'est sûr que c'est difficile à appliquer sur le coup, mais en fait, ça peut se faire. C'est juste que le gouvernement doit se préparer à se priver de revenus inévitablement parce qu'on est dans une posture un peu difficile, hein,
ouais.
Autant au provincial qu'au fédéral, avec des déficits massifs. Le gouvernement, s'il se prive de revenus, ben, il doit aussi réduire ses dépenses en contrepartie, sinon on va juste creuser la dette par en avant. Mais il n'en reste que, oui, je pense que se débarrasser de l'impôt sur le temps supplémentaire, de réviser toutes les taxes et autres formes d'impôts possibles, là, je veux dire, autant l'impôt sur le revenu que les taxes à la consommation, qu'on a augmenté à répétition. Il faut rappeler qu'à deux reprises, le gouvernement fédéral, dans les dernières décennies, a baissé la TPS d'un point de pourcentage. Puis à chaque fois, c'est le gouvernement du Québec qui est venu chercher sa part en augmentant la TVQ. Donc, d'envisager de régler ce genre de dossier-là. Bien sûr, il y a une panoplie de taxes et d'impôts qu'on pourrait réviser présentement,
mettons, là,
au niveau de l'habitation.
pour que monsieur et madame tout le monde comprennent, là, moi, là, cette première chose-là, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez atteint, mettons, 36 ou 40 heures, mais mettons 40 heures, à partir du moment où vous avez atteint 40 heures, le temps supplémentaire que vous faites vous retourne directement dans les poches. Mettons, ce 2 heures que tu vas faire de plus par semaine, ce 40$ que tu vas avoir de plus dans tes poches, il va retourner dans l'économie d'une quelconque façon. Là. On va s'acheter peut-être de l'essence avec ça, on va s'acheter des trucs qui sont taxés, puis ça va revenir dans les coffres de l'État d'une manière ou d'une autre.
Absolument. Comment dire, c'est un peu paradoxal parce que les gens pensent qu'à chaque fois qu'on permet aux gens d'économiser sur leurs impôts, sur leurs taxes, ça veut dire que le gouvernement n'a pas sa part. Mais la réalité, c'est qu'il va la récupérer autrement.
Exact.
Si tu as 40 $ de plus dans tes poches présentement à la fin de la semaine, ben, d'un, les chances que ce 40 $-là soit épargné sont relativement faibles parce que c'est une marge de manœuvre que les gens peuvent utiliser pour payer d'autres factures, pour payer d'autres dettes, etc. Mais généralement, sur ces autres factures, vous payez des taxes. Donc, c'est qui s'en vont dans les poches du gouvernement. Ouais. Donc, c'est juste perçu autrement. Puis on s'entend que le gouvernement va quand même chercher une bonne part de taxes à la consommation. Donc, au lieu d'aller chercher à l'imposition, il va aller chercher à la consommation. Puis en plus, ben au moins ce 40 $-là, il permet d'alimenter un commerce. Il permet d'être utilisé sous forme de retombées ou de stimulus direct dans l'économie locale. Il faut dire ça, mais c'est pas énorme, ça veut dire 40 $, mais imaginez que c'est 40 $ pour chaque Québécois, Québécoise, ça vient plus d'argent en circulation, puis cet argent-là est réinjecté directement dans l'économie. On se souvient, je pense qu'on avait parlé il n'y a pas si longtemps du fameux texte qui était passé dans l'actualité, là, où est-ce qu'on avait un certain professeur du HEC qui parlait d'imposer là, des fameux REER ou les CELI,
oui.
Parce qu'apparemment, là, c'est juste les riches qui sont en mesure d'utiliser ces mécanismes-là pour épargner, là, alors qu'on sait très bien que c'est utilisé par les gens qui sont dans le privé, qui travaillent, qui n'ont pas de pension au gouvernement,
ouais.
Ou les gens qui, les travailleurs autonomes, essentiellement. Puis la partie d'équation que je trouve particulièrement stupide dans tout respect, c'est qu'on disait que les gens donc, n'utilisent pas ces mécanismes d'épargne, mais on ne regarde pas le pourquoi. Puis le pourquoi, c'est très simple, parce qu'au cours des dernières années, surtout là, vraiment depuis 2021-2022, on a vu l'inflation exploser. Et puis l'inflation, qu'est-ce que cela a comme effet? C'est de réduire le pouvoir d'achat et donc réduire la valeur de votre revenu disponible. Puis c'est le revenu disponible qu'on utilise pour épargner. Mais malheureusement, les gens en ont de moins en moins. Fait que c'est sûr que ça devient de plus en plus difficile d'épargner quand tu as de moins en moins d'argent dans tes poches à la fin, ouais, du mois pour payer ton épicerie ou payer tes factures de base, pour dire ça de même. Donc, au final, il faut redonner de l'air aux contribuables. Il faut justement s'attaquer au maximum de taxes et d'impôts. Nous, on a déjà proposé, par exemple, si on veut donner de l'air dès maintenant aux Québécois, ben, c'est les taxes sur l'essence. C'est un des biens qui a le plus augmenté récemment. Il faut aussi dire que la facture de l'essence, ou du moins le prix du carburant, ça a un impact sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement. Ça va avoir un impact inflationniste qui va se ressentir jusque dans les épiceries. Fait que de s'attaquer à cette taxe-là immédiatement, ça permettrait de sauver quelques dollars à chaque fois que les gens font le plein dans les stations de service. Puis cet argent-là serait inévitablement réinjecté pour justement payer autre chose, d'autres factures et autres, parce que les Québécois sont déjà pris à la gorge anyway. Donc, ouais, c'est de leur donner de l'air pour justement être en mesure d'acquitter leurs autres responsabilités puis pouvoir justement rester la tête hors de l'eau.
On continue à être ministre avec la Fédération canadienne des contribuables, puis on émet des suggestions. Pensons à nos enfants, pensons à la classe moyenne, pensons aux aînés. Tu sais, mettons, au niveau de la santé, tiens, on a un problème au niveau de la santé, on manque d'infirmières, puis on n'est pas capable de compenser le manque d'infirmières. On essaie d'aller chercher des infirmières au privé, ça ne fonctionne pas tant. On essaie d'en recruter le plus possible, mais les filles, avec les filles et les gars, avec les horaires qu'il y a, c'est pas super attractif, donc ils préfèrent rester au privé avec une job de 8 à 5, exemple. À partir du moment où tu as 22 ans, tu es un jeune infirmier, puis on te dit... Écoute, Nick, écoute, Marceau, à partir de 40 heures, là, toutes les heures que tu vas faire supplémentaires sont à toi, mon homme. T'as 20 ans, t'as 22, t'as 23, t'as 24 ans. C'est sûr et certain que tu veux le ramasser ton cash down pour ta maison. Tu vas en faire des heures en santé, là. Tu vas te défoncer pour faire des heures en santé, pour être sûr et certain de ramasser ton argent pour avoir ton cash down pour ta maison. Ce serait si simple d'amener ça. Toi et moi, à un moment donné, on va avoir 65 ans, là. On n'est pas des fonctionnaires. Puis dans le show du matin hier, on a abordé ce sujet-là, toi et moi. personnes de 65 ans, ils ont fait le test. Une secrétaire qui a travaillé pour le gouvernement, une secrétaire qui a travaillé pour le privé, ben pour avoir le même résultat, donc la secrétaire qui a travaillé pour le gouvernement a un fonds de pension, ben la secrétaire au privé, pour avoir le même fonds de pension, il aurait fallu qu'elle se mette 900 000 piastres de côté pendant 35 ans pour réussir à avoir le même fonds de pension, ce qui est impossible pour une secrétaire qui travaille au privé.
Non, c'est absolument impossible d'atteindre, comment dire, le niveau, la qualité des pensions dans le public.
Parfait.
On s'entend à partir du privé.
Donc, elle, va falloir que tu t'en occupes, parce que si elle n'a pas réussi à mettre de l'argent de côté, à 65 ans, elle va avoir la petite pension, elle ne sera pas capable de se loger, elle ne sera pas capable de se nourrir. Donc, nécessairement, ça va prendre des subventions, va falloir la loger dans un HLM ou quelconque truc qu'on va inventer à ce moment-là. Mais si tu lui permets à cette dame-là de 65 ans, qui a choisi de travailler là, au privé plutôt qu'au public, si tu lui dis, à partir de 65 ans, madame, vous avez votre pension provinciale, fédérale, mais toutes les heures que vous faites, comme vous avez payé de l'impôt bien en masse dans votre vie, toutes les heures que vous faites à partir de 65 ans, on ne vous enlève plus une scène. Cette personne-là, elle va continuer d'être sur le marché du travail. Au niveau cognitif, ça va continuer de bien aller entre ses deux oreilles. Au niveau physique, elle continue de travailler, donc elle bouge. Tu vas l'éloigner de l'hôpital aussi. Ça va être rentable pour la société.
Absolument. Puis, tu sais, ça retire un peu de pression sur les épaules au niveau de l'épargne qu'elle doit mettre de côté pour atteindre une pension similaire à celle à la personne que tu décrivais dans le public, parce que je faisais le calcul rapidement, mais 900 000 $ là, sur 35 ans, il faut quasiment que tu mettes 25 000 $ de côté à chaque année pour arriver à une telle pension. C'est sûr que là, je prends le montant sans calculer les intérêts qui auraient été cumulés sur la période, là, fait que c'est un montant très, très... très, très brouillon, mais il en reste qu'on sait quand même entre les 15 et 20 000 $ là, d'épargne facilement sur toute cette période-là par année pour arriver à avoir une pension qui est, oui, qui est intéressante, mais tu ne vis pas non plus sur l'or. Là. Tu vis juste bien comme tel, mais comme tu l'as mentionné, l'infirmier, là, s'il se faisait dire « je ne paie plus d'impôts ou d'une quelconque manière sur les 41 heures et plus que je fais de travail par semaine, ça va le garder motivé à rester au travail. Mais maintenant, applique cette logique-là à l'ensemble des travailleurs québécois. Imagine le boost économique que ça donnerait aux manufactures, aux restaurants, à toutes la moindre industrie, comment est-ce que ça boosterait la productivité. C'est le plus gros problème qu'on a.
Nicolas Gagnon, c'est pas Lucien Bouchard qui disait qu'on était des lâches.
Oui, puis mais il n'y a pas raison, on n'est pas des lâches, mais on a besoin parfois d'avoir un incitatif.
Ben, je comprends.
Puis l'affaire, c'est que je pense que Lucien Bouchard, lui, on s'entend, dans la vie, il y a le bâton puis la carotte, puis Lucien Bouchard, c'est un fan du bâton. Là. Moi, je suis plus un fan de la carotte, c'est-à-dire que je pense qu'il faut aller avec des incitatifs. Puis le meilleur incitatif pour travailler, c'est que tu te fais dire, toi, le travailleur, tu peux en garder plus dans tes poches à la fin de la semaine.
Exact.
À partir du moment que tu atteins ton, pas juste le quota, mais plutôt le nombre d'heures à accomplir pour être temps plein. Puis appliquer cette logique à l'ensemble de l'économie, puis on va vraiment déployer un potentiel fou qu'on n'a jamais vu au Québec. Et le pire, c'est qu'on en a grandement besoin parce que notre productivité au Québec a toujours été un peu plus faible que les autres provinces canadiennes, que les autres juridictions nord-américaines, à cause notamment de la fiscalité, au niveau de l'appareil réglementaire, des taxes, impôts et tout ce genre de choses-là. Pour les entreprises comme pour les particuliers, ça nuit à la productivité de nos entreprises. Donc, si vous enlevez ne serait-ce que cette barrière-là, ça risque d'aider grandement. Et en plus, ça va peut-être aussi attirer des capitaux étrangers à vouloir s'investir au Québec en se disant « OK, ici, la productivité est plus intéressante. Si je lance ma business ici, les gens vont vouloir travailler. Je ne vais pas nécessairement avoir le syndicat d'injambe qui va s'opposer à ce qu'on fasse plus de 40 heures semaine. » Parce qu'on va se dire franchement, un des éléments qui nuit le plus à la discussion qu'on a, à la solution qu'on a, c'est les syndicats qui s'opposent catégoriquement à ce genre d'approche. Alors qu'en réalité, c'est ce qu'on aurait besoin. Surtout dans un Québec, on en parle, puis c'est pas tout à fait un dossier sur lequel j'aime nécessairement m'aventurer, mais on a quand même une population vieillissante avec un taux de fécondité qui est pas très, très fort. Là. Je pense que c'est le plus faible au Canada. Et en plus, on voit que la population va stagner au cours des prochaines années. Et ça, c'est la seule raison pour laquelle on a une croissance démographique au Québec présentement, c'est grâce à l'immigration. Tu retires ça de l'équation, puis on a une population déclinante présentement. Donc, ça donne une idée de l'état de la population québécoise. Puis là, on se dit, au cours des prochaines années, on va avoir besoin de plus de contribuables parce qu'avec une population vieillissante, avec un bassin de population qui est de plus en plus restreint au niveau des contribuables, ben ça, soit on doit couper massivement les dépenses, réformer le système, ou on a besoin de davantage de revenus. Mais si, mettons, on veut protéger le modèle québécois dans son ensemble, garder un système de santé publique, garder un système d'éducation publique, avoir des routes publiques, tout ça, si on veut garder ça de même, ben il va falloir qu'on se tourne vers la colonne des revenus inévitablement. Bien sûr, les dépenses sont. Faut s'y attarder. Mais les revenus, comment est-ce qu'on fait pour garder ça actif? Ben, c'est de s'assurer d'avoir une population active et productive. Et pour ça, ben, il va falloir avoir des réformes puis des solutions qui sont beaucoup plus ambitieuses que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, qui sont plus souvent qu'autrement à travers des programmes de subvention. Au Québec, la productivité, elle vit de manière artificielle aux dépens des contribuables à travers des chèques qui sont garrochés par le Fonds de développement économique, le ministère de l'Économie, Investissement Québec, la Caisse de dépôt et placement, alors qu'elle devrait venir de la capacité de travail des Québécois eux-mêmes.
Puis je répète, là, c'est un exercice qu'on fait, moi et Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. On est, ben en fait, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Moi, je travaille pour cette station-ci. Mais on est des ministres et on propose des trucs qui pourraient être intéressants à mettre en place. Je continue. Quel gouvernement peut priver les jeunes d'aller sur le marché du travail, les jeunes qui sont aux études, que ce soit au collégial ou encore à l'université, d'aller au marché du travail temps plein l'été, alors qu'on a besoin énormément de cette main-d'œuvre-là. Pour les gens qui ont été à l'université, pour les gens qui ont été au cégep, sur les prêts et bourses, ben vous ne pouvez pas gagner trop cher si vous allez à l'université puis vous êtes sur les prêts et bourses, ce qui fait en sorte que les étudiants calculent leur nombre d'heures. Est-ce qu'on ne pourrait pas abolir ça, Nicolas?
Absolument. Autant pour les plus jeunes que pour les aînés, pour favoriser la sortie de la retraite ou que les gens soient plutôt en semi-retraite. Parce que, tu sais, ne serait-ce que de, tu sais, on n'est pas obligé de forcer. En fait, le but, c'est pas de forcer, c'est plus d'inciter. Mais c'est pas d'inciter tous les retraités à revenir temps plein sur le marché du travail. Si tu fais juste les inciter à revenir, ne serait-ce que 2, 3 jours semaine dans le travail, ça va aider beaucoup. Ça va remplir des emplois qui sont vacants depuis longtemps et qui ont besoin clairement d'être occupés. Puis c'est l'inverse aussi pour la population qui est la plus active, qui est la plus en âge d'être active et productive, mais qui malheureusement se sent pénalisée à partir du moment qu'elle reçoit un revenu. Comme tu l'as dit, il y en a beaucoup que c'est des prêts et bourses qui payent leurs études. Donc, à partir du moment qu'ils vont chercher un revenu, ça va les pénaliser. Si le revenu dépasse, je pense que c'est un seuil de 15 ou 18 000 $ par année.
Exact.
Bref, c'est
autour
un
de
montant
moi.
qui est assez ridicule. Essentiellement, on dit aux étudiants de rester dans une position précaire. Puis si vous osez essayer d'en sortir, bon, on vous retire des privilèges.
Mais qui a pensé à ça? Qui a pensé à ça? Hey, on va aider les étudiants à aller à l'université, puis si jamais ils veulent faire de l'argent de plus l'été, on va les freiner, toi.
Ça doit être un fonctionnaire. Ça veut pas être un génie, ça c'est certain, mais ça doit être quelqu'un qui s'est dit: Ah non, c'est pas vrai que les jeunes vont faire de l'argent, voyons donc. Alors que quand tu as cet âge-là, pour avoir été à l'université moi aussi, puis avoir été au cégep, tu travailles l'été, puis de l'argent que tu fais l'été, tu finis par la dépenser inévitablement durant
Oui.
tes sessions parce que tu travailles moins. Fait que tu deviens pas riche en étant à l'école.
Non.
C'est peut-être plus tard, en sortant de l'école, que tu trouves enfin la marge de manœuvre pour faire le revenu que tu veux, puis mettre de l'argent de côté et tout ça. Puis là, ben, tu es pénalisé par l'impôt, mais à juste titre, on pourrait dire ça de même. Mais quand tu es un étudiant, tu es injustement pénalisé pour tenter d'en avoir un peu plus, d'avoir un peu plus de marge de manœuvre, puis pas finir, comment dire, dans la précarité avant la fin de ton bac. Le pire, c'est que tu sais, c'est rare que je lance des fleurs à des partis politiques comme Québec solidaire, mais c'est un des rares partis qui a pris vraiment le temps de mentionner cet enjeu-là. L'insécurité alimentaire dans le milieu universitaire et collégial, c'est pas une blague. Il y a vraiment des étudiants là, qui sont au bac, qui sont à maîtrise ou qui finissent leur DEC, puis qu'ils ont discuté à manger à leur faim. C'est pas des gens qui vivent dans la rue, là, c'est pas comme ça. C'est juste
Ben,
que malheureusement, ils n'ont pas la marge de manœuvre.
en fait, maintenant, je parlais avec des regroupements là, qui s'occupent des itinérants. Puis ce qu'on nous mentionne, c'est que dans certaines universités au Québec, à certains endroits, il y a eu une itinérance qui est invisible. Donc, des étudiants qui sont à l'université, qui dorment chez d'autres étudiants sur le divan. Puis ils vont payer un 30, un 40, un 50 $ par semaine pour emprunter le divan. Il y en a d'autres, et c'est ce que je me suis fait dire il y a 2 semaines, qui dorment dans leur véhicule à l'intérieur des stationnements souterrains dans les universités où c'est disponible. Ou sinon, ils vont aller chercher un stationnement souterrain qui est chauffé, puis ils dorment dans leur char. On en est rendu là, Nick. Donc, d'essayer d'aider ces gens-là par des moyens efficaces, c'est-à-dire, savez-vous quoi? Vous êtes sur les prêts et bourses, oui, mais si vous voulez faire un nombre d'heures pour vous sortir de la marde l'été, ben faites-le, tabarouette, puis vous allez être capable de vivre dans un logement qui a du sens. Vous ne vivrez pas une grande pauvreté pendant que vous êtes en train d'étudier à l'université. Il me semble que c'est une double difficulté, là.
Oui, mais malheureusement, ce qu'on dit présentement, c'est considéré comme une idée dangereuse selon certains fonctionnaires et selon certains politiciens. Parce que, tu sais, le pire, c'est que c'est du gros bon sens.
Y a-t-il moyen de ramener la guillotine pour des gens qui prennent des décisions de même?
Ben, le problème, c'est que les Français, ils ont sorti cette invention-là au 18e siècle. Ouais. Ils se sont débarrassés d'un roi et se sont ramassés avec un empereur. Fait que je sais pas à quel point c'est efficace comme outil, mais n'en reste que... Mais oui, non, c'est fou quand même de dire... On parle quand même de gros bon sens. Là. Je veux dire, le gouvernement serait pas du tout perdant à laisser les étudiants travailler un peu plus et ne pas être pénalisés sur leurs prêts et bourses. En fait, ça permettrait de soutenir les entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre. Puis que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui disent ben, je peux pas aller travailler ou je peux juste travailler au noir donc en dessous de la table. Sinon, je vais me faire pénaliser. Fait que ça permettrait aux entreprises d'avoir justement une main-d'œuvre qui est disponible, mais qui refuse d'être pénalisée. Et ça permettrait d'aider les étudiants à avoir un revenu supplémentaire. Puis qu'est-ce qu'ils font avec leur revenu à cet âge-là? Ils consomment.
Exact. Alors,
je veux dire, j'étais là il n'y a pas si longtemps. Là, quand tu n'as pas vraiment une marge de manœuvre pour épargner. Quand tu es à l'université, tu ne mets pas d'argent dans un CELI ou dans un REER. Tu n'en as presque pas. Là. Je veux dire, puis le peu que tu mets dedans, ça n'a pas tant d'impact sur tes impôts à la fin de l'année. Fait que, tu sais, la marge de manœuvre supplémentaire là, qui serait perçue par ces salariés étudiants-là serait réinjectée presque inévitablement dans l'économie québécoise. On serait juste gagnant à tous les niveaux. Mais malheureusement, c'est trop du gros bon sens là, pour certains hauts fonctionnaires au gouvernement.
On s'est nommé ministre, toi et moi, depuis quoi? 35 minutes à peu près là, que l'émission a commencé. Ouais. Puis on a réglé les problèmes de productivité du Québec. Puis on a réglé un problème de pauvreté. Puis de pauvreté annoncée pour des gens de 65 ans qui n'auront pas réussi à mettre de l'argent de côté. Fait qu'on résume. Après 65 ans, vous voulez travailler encore? Il n'y a plus d'impôts. Vous avez travaillé une bonne partie de votre vie. À 65 ans, plus d'impôts. Si vous avez la petite retraite, gouvernement du Québec, gouvernement du Canada, ben vous allez pouvoir continuer à travailler puis rester loin de l'hôpital. Pour ce qui est des gens qui veulent travailler beaucoup plus, ben à partir de 40 heures, on vous enlève plus une maudite scène d'impôts, donc ça va aller directement dans vos poches. Fait que vous faites un salaire de, mettons, c'est 16,90 là, le salaire minimum à partir du 1er mai, ben mettons 17 piastres. Fait que passer 40 heures, le 17 piastres va directement dans vos poches. Passer 40 heures, le 30 piastres de l'heure va directement dans vos poches. Fait que pour ceux qui veulent travailler plus, ben ça va être extrêmement rentable. Puis pour les étudiants qui sont au cégep ou à l'université sur les prêts et bourses, ben l'été, quand vous voulez travailler les heures que vous désirez, vous ne serez pas coupé dans vos prêts et bourses. Mais je ne sais pas si ça va se rendre au gouvernement. Honnêtement, c'est de grandes idées, mais en même temps, je ne suis pas sûr qu'ils soient assez proactifs pour faire ce qu'on a dit.
Non, regarde, on parle du même gouvernement qui est rendu à sa 5e réforme en santé en 25 ans. Ouais. On parle du même gouvernement que, comment dire, on est rendu avec des déficits massifs. En fait, on pourrait trouver une solution pour le déficit dès maintenant. J'en avais trouvé une sur un coin de table il n'y a pas longtemps. Mais sinon, c'est malheureux parce que on a l'impression que ce soit la CAQ ou que ce soit le PQ ou le PLQ ou peu importe qui sera au pouvoir cet automne, que ces solutions-là ne font pas suffisamment leur chemin. Je le mentionne très souvent, le pourquoi de ça, c'est à cause des fameux gardiens du temple. C'est qu'on parle des ordres professionnels, qu'on parle des syndicats, qu'on parle de carrément juste de la haute fonction publique qui est conservatrice dans sa façon d'être, sa façon de gérer les choses et sa façon de réformer. Dans tous les cas, on a des solutions à portée de main dans la société civile qui n'attendent qu'à être entendues. Et malheureusement, elles sont bloquées par des gens qui, on dit, ne voient pas l'intérêt à ce que les choses s'améliorent pour l'ensemble de la population québécoise. Mais oui, regarde, on peut en garocher des idées, puis mais malheureusement, il va falloir qu'on crie plus fort pour que ça sente jusqu'aux oreilles des politiciens. Mais moi, ce que j'aime avec les années électorales comme celles qu'on voit, qu'on vit présentement, c'est que les politiciens sont un peu plus à l'écoute d'habitude durant les années électorales qu'ils le sont pendant les autres années où est-ce qu'ils ne sont pas en élection. Fait que peut-être qu'on a une fenêtre d'opportunité qui va s'ouvrir devant nous. Puis peut-être qu'il y a un caquiste ou il y a un libéral ou il y a un péquiste qui nous écoute présentement qui va dire « Hey, ça va se retrouver dans notre plateforme électorale, ça. » Puis avec un peu de chance, peut-être ça va faire son chemin. Sinon, ben, la Fédération canadienne des contribuables, c'est ça qu'on fait de notre côté. On mène des pétitions, on dresse des pétitions. En fait, on rassemble le maximum de personnes que possible. Et quand c'est le moment de frapper, d'envoyer des masses de courriels aux politiciens, à des hauts fonctionnaires et autres pour leur demander de changer. Et c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on a vu du changement. D'ailleurs, le congé de taxes d'assises fédérales qu'on a de Mark Carney, c'est en partie, je ne vais pas prendre que, c'est pas que nous, mais on a mis beaucoup de pression sur Mark Carney. On a carrément des dizaines de milliers de sympathisants de la FCC qui ont bombardé de courriels Mark Carney là, dans les jours qui ont précédé sa décision. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut dire qu'on est capable de faire monter la pression, faire sentir la chaleur aux politiciens puis les forcer à agir quand c'est nécessaire. Puis là, ben, dans une année électorale, on a un peu plus de jeu pour faire en sorte que ça se réalise.
On est avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Est-ce que tu connais le polymètre?
Polymètre, je sais pas, ça sonne comme un genre de site de Paris. C'est pas Polymarket, non, ok, j'ai autre chose en tête. Polymètre, je connais pas ça.
Si tu vas sur le site polymeter.org, polymeter.org, tu vas savoir ce que c'est que le polymètre. C'est une initiative indépendante développée par des politicologues qui vérifient si les politiciens respectent leurs promesses qu'ils font.
Intéressant.
Et là, on voit les promesses de Mark Carney, on voit les promesses de François Legault et on voit les promesses de Justin Trudeau. Jusqu'à maintenant, quand on regarde le polymètre de Mark Carney qui vient tout juste de commencer, donc c'est un mandat jusqu'à maintenant de 351 jours. En suspens, donc pour ce qui est des promesses qu'il a fait là, pendant sa petite campagne électorale pour devenir chef du Parti libéral du Canada, en suspens, il y a 62% de ses idées. En cours de réalisation, ce serait 26, excuse-moi, en cours, ce serait 26%. Des promesses réalisées jusqu'à maintenant, en un an, il en a fait 6% de ces promesses-là. Partiellement réalisées, 3%. Et des promesses rompues, il est à 3%. Est-ce que tu serais, toi, pour un recall aux 2 ans? À partir du moment, avec le polymètre, là, à partir du moment où il n'a pas réalisé 50% de ses promesses pour lesquelles il a été mis au pouvoir, ben désolé, on s'en va, on retourne en élection.
Ben, nous, on est pour la mise en place d'une loi de recall, une loi de rappel, pas juste à toutes les 2 ans, carrément en permanence. On devrait pouvoir mettre dehors nos politiciens à n'importe quel moment. Quand t'es pas bon, t'es pas bon. On ne devrait pas attendre une élection pour se débarrasser de quelqu'un,
Je suis en train de
là.
penser à l'émission de ce soir, Nick, puis je me dis, quand je vais y arriver avec mon histoire de Polymeter, il va me traiter d'extrémiste. Ben non, lui, c'est à tous les jours qu'il va sacrer dehors.
Oh, j'en mettrais des dizaines dehors, puis on s'en rendrait même pas compte. Ça nous coûterait moins cher, puis on dirait, hey, ça a rien changé. Mais pour vrai, non, mais tu sais, la blague, mais ça existe déjà en Alberta, une loi de
Oui.
rappel, puis je pense que ça existe également en Saskatchewan. Puis la raison pour laquelle une loi de rappel, ça peut devenir intéressante, d'un, comme pour le cas que tu as mentionné, quand un parti ou un chef d'État a brisé trop de promesses. Éventuellement, on peut établir que ben, la confiance en son gouvernement est brisée. Encore là, ça va dépendre de l'opinion publique. Parce que si l'opinion publique est satisfaite, comme on le voit présentement, je vois pas ben, ben de gens qui veulent des élections demain matin au niveau fédéral. Je vois pas non plus, puis au Québec encore moins, on dirait qu'il y a une popularité assez importante à l'égard de Mark Carney. Donc, je pense pas qu'il y a un souci présentement par rapport à ces quelques promesses brisées. J'ai vu ce site rapidement qu'il en a brisé 12 depuis en un an. Donc, c'est quand même ça à mentionner. Mais pour venir à ce qui s'applique en Alberta ou en Saskatchewan, c'est possible, par exemple, dans un comté, si vous avez la qualité d'électeur, d'aller voir le bureau du directeur général des élections et dire, moi, je veux faire une pétition pour le renvoi de tel politicien dans tel comté. Généralement, c'est dans votre propre circonscription. Et vous devez ramasser des signatures. Le nombre de signatures, je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense que c'est une affaire quand même comme 20 ou 25 % de l'ensemble des électeurs de votre circonscription. Donc, c'est quand même plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes qui doivent signer votre pétition. Mais quand vous avez complété cette feuille-là, automatiquement, ça déclenche soit un référendum ou sinon, ça déclenche une élection partielle. de manière assez automatique. Ce qui veut dire que ben, le politicien qui est en place, ben, lui, il se fait carrément dire, ben, on te met dehors, mais ben, si tu veux te représenter, tu peux le faire. Tu peux te représenter pour le même parti ou sinon comme indépendant, c'est libre à toi. Mais après ça, donc ça permet aux gens de voter à nouveau pour soit se débarrasser de leur politicien ou sinon pour. Si jamais le politicien arrive à se cramponner, à se maintenir en place, ben, il peut avoir un genre de, comment dire, un regain de confiance en lui. On verra ce que ça donne. Mais je pense que ça devient intéressant dans le contexte aussi où est-ce qu'on a vu beaucoup de transfuges au fédéral traverser là, la Chambre des communes pour passer soit des conservateurs aux libéraux ou sinon du Bloc au Parti libéral. Puis il y a beaucoup de gens qui ont fait, écoute, là, surtout avec Marilyn Gladue, qui est une conservatrice finie, là, qui a. Je veux dire, ses prises de position étaient très, très à droite pour la plupart de sa, une bonne partie de sa carrière. Puis là, soudainement, elle se retrouve libérale après avoir critiqué à répétition Mark Carney puis ses politiques. Elle était pro le convoi des camionneurs. Bref, on s'entend que les positions de Mme Gladue, ça la carte, puis je respecte ça. Mais comment elle a fait pour flipper de bord du jour au lendemain? Ça, il y a bien du monde dans son comté de Sarnia, en Ontario, qui n'ont pas du tout compris
Ben non,
et
mais
qui auraient voulu pouvoir.
Cherche pas trop loin, c'est une opportuniste, tout simplement.
Oui, exactement. Puis les opportunistes, ben, peu importe le parti politique, devraient payer le prix. Puis autant au provincial qu'au fédéral, c'est pour ça que je te dis, on devrait pouvoir mettre dehors des politiciens à n'importe quel moment, pas attendre 2 ans, parce que, comment dire, à la vue des événements qu'on a vu se dérouler récemment, on va-tu attendre, on attendrait-tu, mettons que je vivrais dans Sarnia, j'aurais-tu vraiment le goût, ben là, j'aurais pas le choix d'attendre, mais parce que la loi n'existe pas, mais si j'avais le mécanisme qui me permettait de renvoyer mon député, c'est clair et net qu'il y aurait une
Ouais.
pétition déjà en place
Parce que
pour renvoyer Mme Gladue, mais ça s'appliquerait n'importe où pareil.
dans le cas de ceux qui veulent être qui veulent changer de parti, moi j'ai aucun problème avec ça, en autant qu'ils finissent leur mandat comme indépendants, puis après ça, ben, s'ils veulent se représenter, ils mettront le gilet qu'ils veulent. Dans le dossier du polymètre, c'est parce qu'on met au pouvoir des politiciens selon le programme qu'ils nous présentent, selon les promesses qu'ils nous présentent. Puis un 2 ans, c'est à mi-mandat. Je trouve que ce serait pas trop leur demander, puis ce serait idéal. En 2 ans, vous devez absolument avoir rempli 50% de vos promesses, sinon vous allez perdre votre job. Puis je le sais que je suis mal fait, puis que j'ai peut-être été trop déçu par le passé des politiciens, mais les politiciens ou encore les employés sont meilleurs quand tu leur dis Hey, t'en auras pas deux chances, là. Tu vas t'en aller bientôt si tu fais pas le travail. Regarde, là, les derniers mois de la CAQ, à quel point ils se sont activés, à quel point ils sont plus présents dans les médias, à quel point ils parlent de leur programme, à quel point ils semblent être plus à l'écoute du peuple. Parce qu'ils sont sur le point de tout se faire sacrer dehors. Fait qu'un politicien qui est tout le temps sur le point de se faire sacrer dehors, justement avec une possibilité de recall, d'après moi, il va être tenté de faire un peu mieux sa job plutôt que de s'asseoir pendant 4 ans. Mais ça, écoute, c'est peut-être ma vision un peu erronée du fait qu'ils m'ont tellement déçu. Hey, écoute, Nick, on va faire une courte pause. Après la pause, je veux que tu me parles de la fameuse Sunshine List. Ça a l'air que le Québec serait une province où on n'a pas de Sunshine List. À quoi ça sert une Sunshine List? Pourquoi le parti, la Fédération canadienne des contribuables du Canada aimerait avoir une Sunshine List pour le Québec? J'aimerais ça que tu me l'expliques. Bon, on va parler un petit peu de Christine Fréchette qui est en mission à Washington. On fait une courte pause et on revient.
Marceau, le soir. Le segment que personne ne veut manquer le matin. Le Pit Stop de 7h55 avec Gravel et Marceau.
Là, 2 semaines ou 3 semaines, on reçoit les gars du Gong Show. Puis là, Jeff, tu veux-tu venir? Jeff, il dit oui, je vais être là. C'est le gars le moins drôle de la station.
Fait que c'est ça, c'est notre Jeff national qui est au
Gong Show. T'as fait le 3 minutes.
T'es un génie.
Qu'est-ce que ça te fait de rire du suicide?
Pour de vrai, oui, je t'ai rendu là.
Tu sais, vieillir, c'est être capable de transporter tout notre bagage. Mais de le porter comme tu viens de le porter là, je trouve ça impressionnant, je trouve ça courageux. Puis moi, à partir du moment où tu les as dit « Hey, pèse pas sur le gong, je suis encore fragile, je t'aurais donné ton 5 minutes de break personnel. »
Le Pit Stop de Boulevard 102.1, lundi au jeudi, 7h55.
Ce segment d'émission présenté par Chapo Ben Lévy qui fête son premier anniversaire. Chapo Ben, le centre de liquidation présent à Québec, Lévis et Saint-Georges. ChapoBen.com.
Vous cherchez un condo à Lévis avec gym, piscine extérieure, lounge et qui accepte votre toutou? Découvrez l'archipel. Promotion en cours? Détails au appartementurbain.ca.
C'est la saison F-Sport chez Boulevard Lexus. Obtenez le NX 350 F2 Sport 2026, location 24 mois avec acompte à 808 $ par mois et le RX 350 F2 Sport 2026, location 24 mois avec acompte à 878 $ par mois.
Coudon, as-tu pris tes cartes d'une boîte de céréales? Hey, pis toi, Steve, t'es tellement lent, si tu cherchais quelqu'un pour ralentir le chantier, ils ont pogné le bon!
Pis toi, ma belle, à la bonne ta banane. Mais là, c'est rien qu'une blague.
Oui, mais là, c'est plus drôle. Sur les chantiers, on entre en zone respect. Vous êtes témoin ou victime de comportements inappropriés? Agissez. Pour des ressources et du soutien, visitez zonerespect.org.
Ce jeudi 30 avril, c'est l'événement Milwaukee chez Outils Plus, la plus grande vente d'outils Milwaukee de l'année.
Prix imbattable, promotion exclusive et cadeaux avec achat sur tous les outils Milwaukee.
Outils Plus, boulevard Louis XIV, outilsplus.com.
Avant de passer au garage, n'oubliez pas de passer chez Pièces d'Auto Extra. On dit que les pièces sont jusqu'à deux fois moins chères qu'ailleurs. Manquez pas ça. Pièces d'Auto Extra, Saint-Émile, Amel et Beauport. Piècesautoextra.com.
Décrivez votre rencontre avec les extraterrestres.
Je les ai entendus atterrir sur mon terrain vers minuit. Fait que je suis sorti voir, c'était flou. J'avais pas mes lunettes.
Je vois. En tout cas, plus que vous.
C'est 2-pour-1 sur absolument toutes les lunettes chez New Look. Jusqu'au 9 mai 2026, des conditions s'appliquent. Chantal Gravel, opticienne.
Construction Paradis Leclerc recrute. Tu es charpentier-menuisier, apprenti ou compagnon et tu cherches du changement. On t'offre des projets variés en résidentiel et commercial, de la charpente à la finition et au revêtement. On cherche des gens fiables, efficaces et fiers de leur travail pour joindre une équipe solide avec une excellente ambiance. Temps plein, 40 heures, CCQ résidentiel et commercial avec possibilité d'avancement. On recherche aussi un technicien ou une technicienne comptable pour nos entreprises liées à la construction. Postulez dès maintenant. Construction Paradis Leclerc vient bâtir avec une équipe qui a de l'ambition.
La légende disait qu'on préparait son retour, qu'il reviendrait en grand, encore plus.
Excusez, le Jeep Cherokee est vraiment de retour. Mmh. En version hybride.
Hybride, c'est historique.
Avec une autonomie
mythique
de 800 km et une consommation réduite
impressionnante.
Et un 4x4 de série.
Le tout nouveau Jeep Cherokee hybride 4x4 2026.
Ce n'est pas une légende urbaine, mais bien
le retour d'une légende.
À partir de seulement 42 390 $. Venez en faire l'essai
chez votre concessionnaire Jeep.
Tous les détails sur Jeep.ca.
Boulevard 102.1.
De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien, vous allez le savoir aussi.
C'est simple.
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables est avec nous ce soir. Merci beaucoup, Nicolas Gagnon, d'être avec nous. Je sais que tu as des journées quand même assez chargées, puis tu prends le temps de faire un podcast avec ton ami Marceau de 60 minutes. Je l'apprécie grandement.
C'est toujours un plaisir. Puis écoute, je le fais plus souvent, si tu m'appelais plus souvent, mais on se contente de ça une fois par mois.
Ouais, à un moment donné, les femmes vont commencer à se poser des questions. Là. On peut pas les laisser dans l'ambiguïté comme ça. Là. On peut pas s'appeler trop souvent. Hey, Nick, tu voulais me parler de la Sunshine List. C'est quoi une Sunshine List?
Une Sunshine List, hey, c'est en français, c'est une liste de transparence salariale. C'est ce que c'est exactement. Puis malheureusement, le Québec est la seule province à ne pas en avoir. On est rendu officiellement à cette province-là, encore une fois, à avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Ou c'est l'inverse, là, comme on est les seuls avec une taxe carbone, les autres n'en ont pas. On n'a pas de Sunshine List, les autres en ont. Fait que malheureusement, on est encore isolé sur un enjeu. Puis ça, c'est un enjeu de transparence qui nous touche beaucoup à la FCC. Une Sunshine List, ça permet au gouvernement, en fait, ça force le gouvernement à afficher tous les fonctionnaires, leur nom et salaire. Donc, l'ensemble des fonctionnaires avec une rémunération supérieure à 100 000 $ sur une liste qui est publique et qui est mise à jour aussi souvent que possible. Généralement, c'est sur une base mensuelle, sinon c'est une base annuelle. Mais il n'en reste que ça permet de faire deux choses. Ça permet de forcer le gouvernement à être transparent sur l'ensemble des salaires dans la fonction publique. Ça permet de voir qu'il y a des fonctionnaires qui, effectivement, ont des revenus qui dépassent les 500 000 $ par année en étant VP pour tel poste ou pour telle société d'État. Mais ça permet aussi aux gens d'avoir une idée claire de l'explosion, d'évolution du coût de la fonction publique et du nombre de fonctionnaires. Parce que plus la liste est longue, plus ça vous en dit sur l'état de la fonction publique, comment est-ce qu'elle est coûteuse. Puis après ça, vous posez la question, écoutez, la liste est bien longue, il y a bien du monde avec des gros salaires là-dessus, ce que j'en ai pour mon argent. Pour venir à la question qu'on se disait au départ de notre, du podcast, en fait, c'est de dire les Québécois veulent en avoir pour leur argent. Ben justement, si tu veux savoir ce qui se passe avec ton argent, tu vas avoir de la transparence. Puis la Sunshine List, ça permet de faire de la transparence sur l'état de la fonction publique, le coût et le nombre de fonctionnaires avec des très grosses rémunérations. Et pour, ben, pourquoi est-ce qu'on est les seuls maintenant à ne pas en avoir une? Ben, c'est simple, c'est parce que l'île du Prince-Édouard faisait partie des dernières juridictions à ne pas en avoir une, vient de s'en doter d'une tout récemment, donc elle va entrer en vigueur. Et il reste aussi, il y a un seul autre palier ou juridiction qui n'a pas de Sunshine List au Canada, et c'est le gouvernement fédéral. Puis ça fait en sorte que si nous, on veut, à la FCC, on fait souvent ça, on divulgue l'évolution des salaires à six chiffres dans la fonction publique, donc fédérale, provinciale ou dans les différentes provinces. Et quand on veut divulguer cette information-là, des fins de transparence, bien, nous, mettons qu'on veut le faire au Québec, il faut faire des centaines de demandes d'accès à l'information pour être en mesure d'obtenir l'information qu'on veut divulguer. Alors que dans les autres provinces, c'est fait de manière accessible, automatique, et c'est transparent pour tout le monde. Donc, c'est un souci de transparence qu'on devrait avoir au Québec, parce qu'il faut rappeler qu'au cours des dernières années, on a ajouté pas loin de 109 000 postes dans l'ensemble de la fonction publique et parapublique sous la CAQ. Donc, ça fait non pas juste augmenter le nombre de fonctionnaires, mais le coût de la fonction publique et le nombre de salariés à six chiffres dans les différents ministères. J'ai dû faire des demandes d'accès à l'information moi-même, puis quand on regarde dans les différents ministères, là, ça a augmenté de plusieurs centaines de pourcents. Là. Hey, okay. Ça a explosé. On a carrément des ministères là, que, genre, du jour au lendemain, ben, pas du jour au lendemain, mais en 8 ans, le nombre de salariés à six chiffres a augmenté de quasiment 300%. Là. C'est une réalité qu'on peut observer dans plus d'un ministère au Québec et qui est le symptôme d'une fonction publique dont on a perdu le contrôle. Et en perdant le contrôle sur la fonction publique, on a un peu perdu aussi le contrôle sur les finances publiques. Eh bien, la meilleure manière justement d'éviter que ça se reproduise à nouveau, comme ça s'est produit dans les 8 dernières années, c'est d'avoir justement une transparence via une Sunshine List notamment, pour garder en vue essentiellement les effectifs gouvernementaux, leurs coûts et effectivement ce que ça représente pour les contribuables.
Parfait. Maintenant, en 2 minutes, Christine Fréchette qui est allée rencontrer des gens à Washington, des gens quand même d'une certaine importance, là, dont l'individu qui est chargé de la négociation de la CEUM avec le Mexique et le Canada. En gros, cacafala, ça a-tu bien du sens, cacafala? Et en bout de ligne, est-ce qu'elle fait ça pour l'image ou si les Québécois vont ressortir grand gagnant cette rencontre-là entre Christine Fréchette et les gens à Washington?
C'est une bonne question. Je pense qu'elle fait bien d'être là, d'une certaine manière, parce que c'est son rôle en tant que chef d'État, au moins de tenter de négocier, de tenter de sauver les meubles ou de tenter de faire quoi que ce soit que le gouvernement fédéral ne semble pas être disposé à faire pour l'instant. Faut le dire, là, il y a eu des reproches de la part de l'administration Trump récemment par rapport à comment est-ce que le Canada s'attarde aux négociations, comme quoi est-ce qu'on n'est pas souvent présent, comme quoi est-ce qu'on est difficile à négocier avec. Je dis pas que l'administration Trump a raison en passant, mais je pense que des fois, ben, comment dire, une horloge brisée a raison 2 fois dans une journée. C'est peut-être le cas aussi. Ils ont peut-être raison sur le fait qu'on n'a pas, comment dire, une équipe de négociateurs fédérales qui semble être vraiment là. Comment dire, proactive autant qu'on l'aimerait en tant que Canadien et autant que les Américains aimeraient avoir à l'entour de la table. Donc, d'avoir Christine Fréchette de se rendre là, moi, je veux dire, franchement, c'est ce qu'elle doit faire. Maintenant, est-ce que ça va donner des résultats? Ça, c'est une autre paire de manches. Parce que pour l'instant, la seule personnalité canadienne qui est en mesure d'obtenir des gains auprès de l'administration Trump, c'est une autre première ministre canadienne qui est, dans ce cas-ci, Albertaine,
Danielle Smith.
Puis elle a quand même bien tiré son épingle du jeu. Ça a permis de réduire les tarifs qu'elle allait s'appliquer, notamment sur l'énergie, donc le pétrole. On comprend que dans leur cas, c'est assez critique là, comme situation. Maintenant, au Québec, c'est quoi les gains qu'on devrait s'attendre de cette négociation-là? Je sais pas. Surtout, moi, ce qui me dérange beaucoup avec les négociations, c'est quand il y a des élections qui arrivent par la suite.
On nous a dit deux mots que t'aimes, culture et gestion de l'offre. Semblerait que Christine Fréchette a abordé ça comme quoi c'était impossible d'abandonner la gestion de l'offre.
Ben, moi, écoutez, je vais pas me mettre à critiquer ou à défendre la gestion de l'offre en nom d'aujourd'hui. Par contre, je vais dire un truc. Dans les dernières semaines, j'ai vu quelques articles passer où est-ce qu'apparemment les Canadiens aimeraient qu'on rejoigne l'Union européenne. Ou est-ce qu'on aimerait se rapprocher de l'Europe? Tu sais, comme quoi le Canada, on ne veut pas être un 51e État, on veut plutôt être le 27e État de l'Union européenne. Mais mon point là-dessus, par exemple, c'est de dire, l'Union européenne, s'ils veulent qu'on rentre là-dedans, dans les négociations commerciales qu'on a eues avec l'Europe, ça nous ramenait souvent avec la question de la gestion de l'offre.
Ouais.
Tant aussi longtemps que la gestion de l'offre est dans les parages, bonne chance pour le reste des négociations. Mm. Les Américains, ils s'en mettent un peu à la même place. Moi, je ne dis pas que c'est nécessairement une mauvaise chose de défendre notre secteur agroalimentaire. Je dis juste que, éventuellement, dans une négociation aussi tendue, il faut que tu sois capable de mettre de l'eau dans ton vin et à faire des concessions et surtout à mettre des attentes un peu plus basses. Ceci étant dit, comme je le disais tantôt, Christine Fréchette est peut-être là jusqu'en octobre. Donc, j'ai hâte de voir. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est quoi les autres priorités des autres chefs ou des aspirants chefs d'État? Qu'est-ce que ferait Charles Millard en négociation avec les Américains? Qu'est-ce que ferait Paul Saint-Pierre-Plamondon, qui veut quand même faire l'indépendance du Québec? Il va devoir négocier avec les Américains pas à peu près, et sur plus d'un dossier que celui commercial. Puis, parler de culture avec les Américains, je comprends, mais je pense que c'est pas tout à fait la priorité en ce moment dans des secteurs névralgiques, manufacturiers, le bois d'œuvre, de l'aluminium. Bref, on a des secteurs qui méritent d'être protégés, qui sont un peu plus prioritaires tant qu'à moi pour les régions du Québec.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, merci beaucoup pour le podcast de 60 minutes. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur ce bel organisme-là, c'est contribuable avec un S.ca. Je te souhaite une belle soirée, de même qu'aux auditeurs. Puis on se reparle, dans ton cas, dans quelques semaines. Sinon, pour les auditeurs, ben, ce sera demain soir. Merci, Nick.
C'est un plaisir. À bientôt.
Bye-bye.
Marceau, le soir.
Ce segment d'émission présenté par Chapeau Ben Lévis qui fête son premier anniversaire. Chapeau Ben, le centre de liquidation présent à Québec.